le pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan pour votre émission du jeudi de 19h30 à 20h30. C'est Judaïsme pluriel, une émission de la radio juive de Marseille. Il m'arrive parfois de faire un retour en arrière sur des émissions passées. Et il y en a beaucoup puisqu'elles ont débuté en 97. Je vous propose ce soir de réécouter Varsovie, Varsovie, une bande dessinée ou transmettre avant tout. Une émission faite en 2017 avec Didier Zouili. Alors bonne écoute. Ce soir, Varsovie, Varsovie, une bande dessinée ou transmettre avant tout. Avec Didier Zouili. La bande dessinée a fait son chemin depuis le temps de Tintin. On a vu apparaître les comics américains, les aventures de Mickey bien sûr, ou les mangas japonaises, pour arriver finalement à une forme d'illustration du quotidien, et je pense par exemple à Johann Sfar et le chat du rabbin. J'ai voulu chercher une définition de la bande dessinée, et j'ai trouvé celle-ci. Image picturale ou autre, volontairement juxtaposée en séquence, destinée à transmettre des informations et ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur. Je crois que notre invité de ce soir peut y ajouter une nouvelle dimension. Transmettre. Transmettre comme un devoir de mémoire. Aucun événement historique n'échappe à la fiction. Avec prudence, parfois avec génie, la bande dessinée s'est aventurée, comme la littérature et le cinéma, sur le terrain de la Shoah. Chacun connaît Maus d'Art Spiegelman. Mais, par-delà ce chef-d'œuvre, comment les auteurs de BD se sont-ils emparés du sujet ? Cette interrogation, je l'ai trouvée en quatrième de couverture du livre « Shoah et bande dessinée, l'image au service de la mémoire » sous la direction de Didier Passamonique et Joël Kotek. Eh bien, notre invité et ami Didier Zouili, venant de faire paraître « Varsovie, Varsovie, ils vont sauver les archives de l'oubli », une BD dont nous allons parler, bien entendu. Eh bien, Didier va nous faire pénétrer ce chemin associant à la fois le texte et l'image. Bonsoir Didier, et merci d'être avec nous.
Bonsoir Roland.
Alors Didier, pour préparer cette émission, tu m'as invité dans ton atelier. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. À côté du matériel informatique, bien sûr, l'aspect technique, des centaines et même des milliers de planches en noir et blanc, en couleur, des livres, des textes sur de nombreux sujets en passe de devenir des projets à concrétiser. Une vie entière, et tu as 59 ans et tu as passé ta vie à ça, on va le voir. En pénétrant d'ailleurs dans ton atelier, j'ai tout de suite senti comment formater cette émission de ce soir. Et je tiens tout de suite à te remercier de m'avoir prêté documents, livres, textes pour préparer cette émission. Alors, comme d'habitude, je vais te présenter à nos auditeurs. Tu es né à Paris en 1958. Tu as fait des études classiques, tu passes un bac artistique quand même, puis une licence de lettres modernes à la faculté d'Aix-en-Provence. Si je me trompe, tu me le dis, tu n'hésites pas.
Tout à fait.
Il faut dire que dès l'âge de 12 ans, c'est ce que tu m'as dit, tu t'es mis à dessiner. Tu dessinais. Alors dis-moi ce que tu dessinais.
Je dessinais tout ce qui se passe. J'écrivais des petites histoires, je me souviens, des petites histoires en trois cases. Et comme c'était toujours à l'école, donc j'étais au fond de la classe, je dessinais les visages des copains, je dessinais des histoires inventées, des monstres, je dessinais plein de choses.
Alors, une idée qui t'a traversé depuis le début et que tu avais en tête, c'est faire des films. Alors, tu deviens assistant metteur en scène de 82 à 87. Alors, dis-nous où et comment ça s'est passé.
En fait, j'étais assistant metteur en scène au théâtre alors que je voulais faire du cinéma, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, dans les sections de cinéma, il n'y avait pas de formation d'acteurs. Et j'adorais les acteurs et j'adore toujours les acteurs. Et je me suis dit que la meilleure façon quand même d'apprendre à diriger les acteurs, c'était de faire d'être assistant metteur en scène au théâtre. Et il se trouve que lorsque j'étais à Aix-en-Provence, je faisais énormément chaque année de figuration au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. J'étais toujours embauché pour être albardier. Et il y a un metteur en scène avec lequel il y a eu un très très bon contact. Et lorsque j'ai fini ma fac de lettres, j'avais pas envie d'être enseignant. Je lui ai dit, est-ce que tu aurais un boulot pour moi? Il m'a dit, j'ai un poste, assistant metteur en scène sur un spectacle. Et puis il y en a eu deux, puis trois, et je suis resté 4 ans avec lui en fait.
Et ça s'est passé où?
À Nice. Au Nouveau Théâtre de Nice en fait.
D'accord. Alors, ce métier, tu me l'as dit, comportait des risques et des aléas, des risques financiers notamment. C'était un métier...
C'était très curieux parce que le jour de la dernière représentation d'un spectacle, c'était pas n'importe où, c'était à l'Odéon à Paris, le Malcourt de Liberty. Et ben on s'est retrouvé comme ça à se dire au revoir, et puis il y a eu une sorte de trou noir, et puis c'est vrai que ça allait donc repartir rechercher d'autres postes, d'autres boulots, et j'avais à l'époque besoin de sécurité, c'est vrai.
Oui. Alors finalement tu as un petit peu bifurqué et de 88 à 98, tu deviens imprimeur maquettiste à Paris. Alors, imprimeur maquettiste, le dessin est toujours présent, il a toujours été présent chez toi. Et par exemple, tu m'as raconté ton travail pour la coopération féminine, que je te demande de nous expliquer.
Voilà, effectivement, j'avais créé une petite société d'imprimerie et parmi les travaux qu'on me confiait, donc j'ai devenu prestataire en fait, prestataire imprimeur et maquettiste donc. Et ben pendant 3 ans, j'ai assuré donc tous les trimestres le journal de la coopération féminine, et c'était un travail passionnant parce que c'était un petit mot de la directrice pour laquelle j'ai vraiment une émotion très très grande, c'est Liliane Klein-Lieber, qui avait parti de l'Osée, qui était une résistante, une grande résistante, cette femme magnifique, et qui était directrice de la coopération féminine. Et en faisant les maquettes, j'ai lu énormément de sujets, appris énormément de choses sur l'histoire juive, sur l'histoire d'Israël. Ça a été donc et du travail et de la culture, en fait, de ma culture.
Et puis alors en 99, tu reviens dans le sud, donc à Marseille je suppose, et tu crées une société de production de films. Est-ce que déjà il y avait une orientation Shoah ou pas encore?
Absolument pas.
Tout, c'était des films. D'ailleurs, j'ai ici cette filmographie. Tu as créé 14 films de 2000 à 2011. Je vais en citer 3 ou 4, je vais pas citer les 14. Yvan et Sonore, ça doit te rappeler des choses. Le droit à la culture, par contre, le manuscrit tombé d'une gabardine. Exemple, les aventuriers du chichi perdu, Britannicus de Jean Racine, je voulais en citer, mais tu en as eu 14. Mais pas seulement des films, mais tu as écrit aussi pour des réalisateurs. Et tu as écrit plusieurs dans la période de 2002 à 2004. Je vais en citer 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 sujets que tu as écrits comme ça. Par exemple, Portrait croisé, Quatre visages de l'Algérie, qui est passé sur TV5 Monde. Par exemple, Le Carrefour des Mondes, c'est passé sur France 3, réalisateur Alain Huguetto. Voilà. Voilà, comme ça, tu as écrit quelques films. Et puis, tu vas publier ta première BD. Cette première BD qui s'appelle Les stars du musical d'Algérie. Alors ça, c'est sorti aux éditions Nocturnes en 2006. Une BD, c'est un livret avec donc la BD plus un CD avec des chants d'artistes bien connus, en tout cas pour ceux qui apprécient la musique judéo-orientale, par exemple Salim Alali, Lynn Monti, qui ne connaît pas Lynn Monti, Youssef Hajej, Mustapha, et puis avec ça aussi un DVD qui est aussi partie prenante de la chose, avec des interviews de Youssef Hajej, toujours, qui a expliqué un petit peu son histoire de Maurice Elmedioni, qui ne connaît pas Maurice Elmedioni et son piano, n'est-ce pas ?
Qui habitait à deux pas d'ici avant qu'il s'installe en Israël, il habitait boulevard Perrier, là.
Ah, oui.
Il habitait à deux pas d'ici.
Mmh. Et ben moi j'avais fait une émission il y a pas mal de temps avec lui ici.
Délicieux,
voilà. Et puis il y a aussi un interview de Blomblon. Hein, Blomblon, voilà, que tout le monde connaît.
Qui est un génie. Bon, c'est un génie du cabaret, Blomblon.
Oui, absolument. J'ai vu le film. C'est vraiment un génie de cabaret, hein. Mmh. Alors, comment tu es arrivé à faire, cette BD, etc. Pourquoi tu es arrivé sur ce sujet-là?
Alors, à l'époque, effectivement, cette société de production, donc, que j'ai dirigée pendant 12 ans, je n'étais pas seul. En fait, je travaillais avec une personne qui s'appelle Valérie Cohen.
Oui.
Et qui a travaillé pendant 10 ans à la Fiesta des Suds. Et c'est, elle qui, lorsque je suis allé la voir pour travailler sur des sujets, je voulais faire des concerts, je voulais filmer des concerts à la Fiesta des Suds. Elle m'a dit, filmer des concerts, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a deux jours, on a fait un hommage à la musique judéo-arabe, judéo-orientale. Et ce qui était intéressant, c'est de raconter l'histoire des gens qui étaient dans la salle.
Oui.
Alors bon, donc j'ai pas réussi à vendre mon travail ce jour-là, mais c'est vrai que cette petite phrase qu'elle m'a dite a fait son chemin. Et quatre jours plus tard, je la rappelle et je lui dis, c'est un très beau sujet. Ces gens qui sont dans la salle, qui viennent écouter Medioni, qui viennent Blanc, il n'était plus là, mais je dis c'est un très beau sujet. J'ai une société de production de films, si vous voulez, on peut en faire un documentaire. Et en fait, on a travaillé plus de 10 ans ensemble. Donc elle est à l'origine donc de ce documentaire, donc Alger en Paris, les années musicales, Lionel Monti, Blanc, Medioni. Et ensuite, l'éditeur a vu ce documentaire à la télé et il m'a dit est-ce que vous voulez pas nous concevoir une bande dessinée sur ce sujet? Et comme j'adorais un des personnages qu'on a filmé qui s'appelle José de Souza, Youssef Hajej, qui était un monsieur magnifique, qui n'est plus là depuis 2 ans hélas, mais c'était un personnage de merveille. J'ai dit cette bande dessinée, comme effectivement le dessin ne me quittait jamais, je me suis dit c'est moi qui vais la réaliser. Donc ça a été ma première bande dessinée.
Et est-ce qu'on peut encore trouver ça dans le commerce?
Alors je sais que en tapant effectivement les stars du musical d'Algérie, on trouve des exemplaires d'occasion aujourd'hui. Je sais pas, je pense pas que ça a été réédité. Ça a été tiré à l'époque à 5000 exemplaires. Je pense pas que ça a été réédité. C'est dommage d'ailleurs.
En tout cas, j'ai écouté, j'ai lu, c'est magnifique.
C'est joyeux.
Alors, écoute,
l'histoire juive joyeuse.
On va abandonner la nostalgie judéo-orientale pour aller vers celle d'Israël et nous allons écouter un morceau que tu as choisi. C'est Yaffa Yarkoni qui chante Be'arvot Hanegev. Nous écoutons.
Be'arvot ha'negev, ish magen nafal, lo noshem ha'na'ar, ve'nadam הלב את בלורית הזהב רוח תלתן לא נושם הנה ונענו הלב את בלורית הזהב רוח תלתן חלומת עצבת ויגון נורא אין זקינה ניצבת ונושא דברה כדור עופרת ויפלח ליבך ארץ צעד קדימה נער גפקומה ויומר לה אמא על לך בדמעה בחורנו אמא בימי פקודה מול שונאינו אמא כחומת פלדה שודד ומלא צמדנים עוין תמידי יהיה לך אנוכי לבי בערבות הנגב ולחץ ידה אם תרצו חבריי אין זו אגדה בערבות הנגב ולחץ ידה אם תרצו חבריי
Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Judaïsme Pluriel et que ce soir, avec Didier Zwilly, nous parlons de la BD et de cette BD qui vient de sortir, qu'il a écrite, Varsovie, Varsovie. Alors, comme d'habitude, je demande à nos invités de choisir les pauses musicales et tu as choisi donc Yaffa Yarkoni. Pourquoi ?
On a tous le parfum de l'enfance, comme ça, qui coule dans nos veines. Et ce disque, parce que là, on a écouté une chanson, Yaffa Yarkoni, ce disque-là fait intégralement partie de mon enfance. Et peut-être même, je dirais que c'est la première matrice, comme ça, de mon histoire juive, en fait, au niveau artistique. J'avais 5 ans, on habitait au Chili. Mes parents étaient enseignants à l'Alliance française. Mmh. On avait ce disque de la Columbia. Je me rappelle la pochette. Je me rappelle de cette femme, la magnifique, là, sur cette pochette. Et j'écoutais ce disque en boucle, et ce disque ne m'a jamais quitté.
On va vers tes racines profondes, là, alors. Bon, alors, écoute, Didier, on a parlé un petit peu de cette première BD que tu as faite, qui n'avait rien à voir, bien sûr, avec la Shoah. Alors, dans quelles circonstances tu t'es orienté vers l'histoire des Juifs, et de la Shoah en particulier ?
Ben, tout à l'heure, tu parlais des films que j'ai faits. En fait, je pense qu'un fil comme ça directeur de tout ce que j'ai fait à ce jour entre les films et les bandes dessinées, je pense que l'humain, est au centre toujours de mon travail, en fait. L'humain et l'histoire, hein, le, par exemple, la première bande dessinée, c'est quand même une histoire. C'est l'histoire de cette musique j'ai dit orientale. C'est une histoire aussi de l'indépendance. Comment aussi la culture raconte l'histoire. Donc, ça a été, c'est toujours ça qui m'importe. Et concernant, la bande dessinée Varsovie, j'ai des éléments de réponse. Puisqu'on m'a posé deux ou trois fois cette question importante, pourquoi vous avez fait ça, cette œuvre-là, ce travail. Et alors, je dirais que quand j'avais 13 ans, j'ai fait un exposé à mes camarades de classe sur Treblinka, le livre de Treblinka. Ah oui. Voilà, c'est un livre, je pense, qui m'a emporté. Et j'avais fait un exposé, donc, c'est les éléments comme ça de transmission, le premier élément de transmission sur cette histoire terrifiante, terrible. C'était donc le livre de Treblinka qui, depuis, paraît-il, donc, qui est controversé, mais peu importe. En tout cas, pour moi, à 13 ans, c'était un choc terrible. Et donc, lorsque je suis rentré, effectivement, à lire petit à petit, donc je pourrais rappeler un petit peu pourquoi après, à lire des livres de Ringelblum, à lire des récits, des témoignages, à voir des films aussi sur l'histoire du ghetto de Varsovie, eh bien, c'est très bizarre. Je vais parler du D-Book. Ces êtres-là qui disent... qui veulent revenir, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi.
Oui, ah oui.
Voilà. Il y a un petit peu, lorsque je lis, lorsque je regarde des photos, lorsque je lis des textes sur tout ce qui s'est passé, ils me disent, ne m'oubliez pas. Donc je pense que quelque part ils m'ont pris et j'ai voulu leur rendre l'humanité qu'on leur a, ou la vie qu'on leur avait volée en fait.
Et puis tu m'as parlé aussi d'une rencontre avec Jim Kalinski.
Alors lui, il a été effectivement, il a été un des moteurs, c'est-à-dire que Jim Kalinski est un monsieur qui a vécu toute sa vie en tant que fourreur, comme ça, un petit bonhomme avec une petite voix aigrelette extraordinaire. Et lorsqu'il était à la retraite, alors sa sœur Sarah Kalinski était une peintre, lorsqu'il était à la retraite, il avait pris plein de notes enfant. Il était juif à Bruxelles pendant la guerre. Il a failli mourir, son père est mort à Auschwitz, et ils ont été sauvés. Pour une raison incroyable, hein, c'est que lorsque sa sœur Sarah est née, elle a eu des problèmes de complications, ils l'ont transportée ailleurs et toutes les personnes juives qui vivaient dans cette rue-là ont été raflées. Et parce qu'ils avaient déménagé 2 heures plus tôt, ils ont été sauvés.
Ah oui, c'est...
La naissance d'une petite fille qui a sauvé la vie, sauf le père. Bon, Et donc Jim Kalinski a dessiné plus de 500 planches sur l'histoire des juifs de Belgique. Avec des petits dessins naïfs, des petits textes. Alors vous avez des nouvelles de Mordechai, on n'a plus le droit d'avoir un poste de radio, tiens j'ai vu tel film ce soir, etc. Bon, il raconte sa vie, etc. Et donc c'est vrai que c'est une œuvre incroyable. J'ai cherché pendant 3 ans un éditeur pour lui, je n'ai pas réussi. J'ai écrit à tout ce que je peux imaginer de gens que je connaissais, etc., pour lui trouver un éditeur. Et en fait, c'est petit à petit, donc à travers les ouvrages de Jim Kalinski, que j'ai commencé à lire, en fait, sur Varsovie, sur le ghetto, sur la Shoah, et voilà.
Alors, j'allais te poser une question, mais tu m'as presque répondu. Le fait de ne pas être historien, puisque tu es plutôt littéraire, toi, ne t'a pas posé un handicap particulier pour travailler sur Varsovie, par exemple?
Ce n'est pas un handicap de ne pas être historien. De toute façon, qu'on est un réalisateur de film ou même auteur de bande dessinée, on n'est pas censé connaître tous les sujets par cœur. Par contre, il y a une exigence derrière. Il y a une exigence, c'est-à-dire que si on rentre dans un sujet où il y a l'histoire et on n'a pas le droit de raconter, surtout avec cette période-là, n'importe quoi, on va s'encadrer, on va s'entourer de deux personnes qui sont des historiens. Et pour ne pas la citer, je vais la citer, si Anne Greenberg, historienne, m'a aidé à relire mon scénario que j'avais écrit, scénario qui était lui-même écrit à partir de livres d'histoire. Bon, ça je pourrais peut-être raconter plus tard comment, mais voilà, donc effectivement je me suis entouré d'historiens. Et ensuite... c'était vraiment ma première exigence.
Et puis d'ailleurs, je crois que après, lorsque la bande dessinée a été faite, Georges Bensoussan, qui est historien lui aussi, a écrit quelque chose qui fait partie de ta BD.
Alors ça, c'était un immense, c'est un hommage, enfin un honneur, je pense. Hein. Georges Bensoussan, effectivement, a accepté. C'était important pour l'éditeur et pour moi-même de terminer l'ouvrage par une partie historique.
historique.
Un contexte précis, daté, chronologique, historique, sur ce qu'a été l'enfer, on peut dire ça comme ça, du ghetto de Varsovie. Et donc Georges Bensoussan a accepté, un grand historien, un des grands spécialistes mondiaux quand même de l'histoire de la Shoah, a accepté de d'écrire ce texte historique. Donc c'était important et je le remercie infiniment.
Alors on devait en lire un petit passage, mais l'heure passe, alors on laissera la lecture à ceux qui vont acheter cette BD, parce qu'ils vont trouver toutes sortes de choses là-dedans. Alors, avant d'aborder le sujet de la BD, Varsovie, Varsovie, que tu as écrite et qui vient de sortir, donc, je voudrais que tu nous parles de cette expérience que tu as faite avec le lycée Diderot à Marseille, une expérience que tu as faite à Flegue, avec deux professeurs et 20 élèves de terminale, et qui m'a paru déjà quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Alors, je te laisse nous expliquer ça.
Alors, ça, ce projet-là, c'est Martine Yana, directrice du Centre Flegue, qui a effectivement me l'a proposé. Et en fait, il y a 2 ans, alors que la bande dessinée n'était pas terminée, ils avaient exposé déjà un certain nombre de planches de la bande dessinée.
Oui.
Et donc, avec les enseignants du lycée Diderot, elle m'a dit, voilà, il y a des élèves qui ont fait un vrai travail, qui sont allés à Auschwitz, qui ont fait un vrai travail avec leur professeur d'histoire, qui ont lu des textes, etc. Est-ce que tu pourrais pas accompagner un travail qui a un rapport effectivement avec ton métier de dessinateur? Et j'aurais proposé le sujet qui était comment dessiner l'innommable, qui était une grande question pour moi avant de dessiner la bande dessinée Varsovie. Cette question-là, lorsqu'on lit ce qui s'est passé, c'est de l'innommable et en même temps c'est de la réalité, et en même temps il a fallu pour transmettre, eh bien, il faut transposer. C'est un mot terrible, transposer. Est-ce qu'on trahit? Est-ce qu'on transmet? Donc voilà. Donc j'ai proposé ce sujet aux élèves, à l'enseignant. Martine Yana m'a dit que ça leur plaisait beaucoup. On a travaillé effectivement une après-midi avec eux et ça a été une après-midi extraordinaire.
Ah oui. Je voudrais lire, j'ai un petit passage là, un petit passage qui a été écrit par un de ses professeurs qui a fait ça. Je vais le lire. Une vingtaine de nos élèves de terminale ont pu toucher du doigt et du crayon sur du papier dessin ce que signifie dessiner l'indessinable et ce que veut dire se mettre en empathie ou à distance afin de toucher l'innommable. Cet innommable comme figure, un homme immobile, incapable de bouger, incapable de parler, incapable de ne pas parler. Assis dans un endroit gris, environné de gris, selon Beckett, voilà le thème de la réflexion que Didier nous a proposé, vouloir dépasser l'incapacité de reproduire en dessin ou en peinture une vision apparue lors d'une méditation. C'était forcément intéressant, surtout après et dans la perspective de notre visite à Paris sur le mémorial de la Shoah. Voilà, ça me paraissait très très important, cette expérience. Et alors, tu nous as pas tout dit, on n'a pas beaucoup beaucoup de temps, mais enfin, je voudrais que tu nous précises un petit peu ce que tu leur as fait faire, à savoir que, bon, tu leur as lu des textes, et puis après, tu les as mis à dessiner, essayer de s'exprimer, et puis tu leur as fait... imaginez le cri de Munch. Tout le monde connaît le cri, hein, de ce peintre. C'est insoutenable. Et alors, qu'est-ce que tu leur as fait faire à ce propos-là?
Bien, en fait, j'ai effectivement ouvert les Chroniques du ghetto de Riegelblum au hasard. Et je leur ai dit, voilà, je vais lire 2 lignes. Et on n'est pas là pour bien dessiner ou mal dessiner. Et la question, c'est toujours, je sais pas dessiner, on s'en fiche de ça. On n'était pas là pour bien dessiner ou pas bien dessiner. On était là pour essayer de voir ce qu'on écoutait évoquer en nous et de quelle façon on pourrait transformer. Et là, tout à coup, au lieu de subir comme ça le choc de ce qu'on entend, essayer de transformer, donc de créer, et donc de dépasser un petit peu la souffrance de ce qu'on a entendu, en fait. C'est ça que j'aurais fait travailler. Donc, travailler plutôt sur l'émotion et la transformation, en fait.
Et après, tu as fait aussi quelque chose avec eux, c'est-à-dire que tu leur as fait répéter une séquence. Et je sais pas trop, j'ai pas bien compris ce que ça pouvait amener, mais je crois que ça a amené pas mal de choses, une prise de conscience peut-être.
Ben en fait, oui, de répéter quelque chose, répéter une phrase, répéter une phrase, répéter une phrase, répéter une phrase. Tout à coup, c'est dépasser le fait que ah, on a une phrase, il faut qu'on en fasse quelque chose tout de suite, etc. Et tout à coup, elle entre en nous. Et c'était une façon de qui laisse plus aller justement l'émotion. Il y a quelque chose de répétitif qui s'inscrivait comme ça dans leur corps, et donc ils ont fait des œuvres que je trouvais très très fortes, hein. Il y a des choses extraordinaires, hein. D'ailleurs, sur le site de FLEG, je crois que Martine a mis les photos sur le site, dans nos vidéos, etc. Elle a mis des photos d'ailleurs de cette rencontre.
Ben, c'est magnifique et c'est une très très belle expérience. Bon, alors maintenant, si tu veux bien, nous allons rentrer un peu plus dans ta BD Varsovie. Donc tu as mis combien de temps pour faire cette BD?
En fait, j'ai mis 4 années en tout. Ouais.
4 années. Et donc elle vient de sortir maintenant, donc chez Marabule, Hachette. Je crois que c'est en mars qu'elle est sortie.
1er mars.
Alors tu m'as dit de t'être inspiré des chroniques de Ghetto de Varsovie de Emmanuel Ringenblum que tu as déjà cité. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de Emmanuel Ringenblum, parce que ça me paraît extrêmement important.
Ce que je vais en dire est tellement bref que j'invite vraiment tous les auditeurs à aller se renseigner, à aller chercher, à aller regarder. Je vais bien sûr en parler, mais j'invite vraiment Emmanuel Ringelblum. J'invite parce que ce monsieur-là est un moteur de la transmission de la mémoire. Il est vraiment au cœur. Il est vraiment au cœur de milliers de choses qu'on a apprises grâce à lui.
Alors comment ça s'est passé pour lui? Parce que si j'ai bien compris, il habitait Varsovie, mais il se trouvait à Genève pour un congrès au moment où les nazis sont rentrés en Pologne.
39, avril,
voilà.
Septembre 39.
Et alors quelle a été sa réaction?
Sa réaction, c'était « je retourne à Varsovie ».
Alors que beaucoup d'autres sont restés à Genève pour se sauver.
Alors, d'autres sont partis en Palestine, d'autres en Angleterre, d'autres au Canada, et lui a dit « ma place est là-bas ». Donc déjà, et ce choix-là, je l'ai... Voilà, ça fait partie des choses dont j'ai fait une séquence. J'ai raconté ce moment du choix qu'il fait,
oui.
Parce que, pour moi, déjà, cela, c'est admirable.
Ah oui, c'est vraiment une prise de position extrêmement importante.
C'est-à-dire qu'en fait, sa position d'historien qui avait écrit d'abord sa thèse sur l'histoire des Juifs, hein, au Moyen-Âge,
oui.
En Pologne, et effectivement, sa position d'historien, il avait tout de suite compris, mais vraiment avec une clairvoyance absolue, que les nazis, s'ils étaient victorieux, écriraient l'histoire des vainqueurs des bourreaux, en fait. Ça serait l'histoire écrite par les bourreaux.
Oui.
Et ça, il a écrit noir sur blanc une semaine après, donc, l'invasion. Il a dit, voilà. Et donc, pour lui, il lui était donc impossible d'imaginer que l'histoire, serait écrite par les bourreaux. Et donc, il a décidé que l'histoire devait être écrite par ceux qui la vivaient, par les Juifs.
Oui.
Et donc, c'est un acte de résistance magnifique. Et donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à créer son travail d'écriture.
Alors, c'est un travail absolument formidable. Je crois qu'il a écrit 27 000 pages.
Alors, pas tout seul.
Pas tout seul, justement.
Alors, voilà. Alors, c'est ça qui est justement très, très, très fort. C'est qu'il a d'abord commencé à travailler tout seul. Il a écrit, passé ses journées entières à écrire sur des sujets. Je pourrais vous lire quelques titres de sujets, vraiment très très précis sur ce qu'il voyait, mais aussi sur la faim, sur la place des femmes dans le ghetto, sur comment passer les armes, sur la place des enfants dans le ghetto, comment les enfants participent à l'économie. Normalement, c'est les parents qui nourrissent les enfants. Et oui. Là, les enfants, comme ils étaient plus petits, ils arrivaient à traverser le mur. C'est eux qui nourrissaient les parents. Une inversion des valeurs terrible. Donc, il a écrit sur plein de sujets, voyant qui ne pourrait pas suffire seul à la tâche, c'est ça son drame. Eh ben, il a commencé à créer un groupe de travail. Et comme il se réunissait le samedi, il appelait Oneg Shabbat en hébreu. Bon, c'est les joies du Shabbat qui est en fait une couverture. Et donc il a réuni des dizaines et des dizaines de personnes. Et il leur a il leur a dit écrivez, 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 écrivez. Et c'est ça le travail des 27 000 pages de documents. Ce sont toutes ces archives qu'il a collectées, mais aussi des dessins d'enfants, et aussi des textes d'un poète, et aussi des récits d'une personne croisée dans la rue qui lui a dit Monsieur Ringelboom, j'écris ça, tenez, gardez-le, c'est précieux, je raconte la vie de mon fils, etc. Et voilà.
Justement, j'ai lu dans le livre que tu as bien voulu me passer que les gens qui écrivaient mais étaient d'origines diverses. Ils pouvaient être des médecins, ils pouvaient être des ingénieurs, mais ils pouvaient être aussi des journalistes, ils pouvaient être des monsieur tout le monde, ils pouvaient être toutes sortes de personnages qui ont écrit et qui ont tous leur importance dans ce qu'ils ont transmis.
Mais je pense que c'est la modernité de ce monsieur absolu, c'est-à-dire qu'en fait, il a compris qu'il fallait intégrer dans ses archives tous les registres de la vie, puisque c'était tous les registres de la vie qui étaient exterminés, qui voulaient être, et donc lui la conception de l'histoire, elle était très simple, c'est l'histoire écrite par ceux qui la vivent.
Exactement, c'est exactement ce
et
que tu as
vu dit. Les conditions et le chaos dans lequel ils étaient, il a dit qu'une seule façon de raconter l'histoire, c'est qu'elle soit écrite par ceux qui la vivent. Et c'est ça l'importance de ce monsieur, c'est la clairvoyance et le courage et la résistance.
Alors, comme je le disais il y a deux minutes, finalement, ce travail fait par lui et puis par tous les gens de Oneg Shabbat, c'est 27 000 pages. C'est un travail absolument énorme. Et très, très, très vite, c'est posé le problème de savoir comment faire échapper ces 27 000 pages aux nazis. Comment cacher? Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Alors, ça a été une question terrible. Il pensait, alors certains disaient qu'il fallait les envoyer aux États-Unis hein, par le Joint Committee. D'autres disaient, mais imaginons que les U-boats, torpillent le bateau. Donc, ça veut dire que tout
un travail perdu.
Et en fait, ils les ont enfouis sous la terre.
Ils ont mis
une phrase terrible d'un jeune de 19 ans qui était David Graeber, oui. Qui a été un de ceux qui a enfoui ses bidons de lait en fer, ses boîtes de métal, les a enfouis sous la terre. Le petit jeune David Graeber, au moment de les enterrer, il a écrit un dernier message. C'est pas entièrement l'intégralité de ce qu'il a écrit. Il a dit ce que nous avons lu hurler au monde qui n'a pas entendu, nous l'avons enfoui dans le sol. Voilà. Et donc ils ont enfoui, ils ont enterré avec l'espoir qu'un jour les générations futures, noir sur blanc, Ringelblum écrit, il le dit, nous écrivons pour les générations futures. Et ben en espoir que ces archives-là seraient un jour découvertes et qu'en fait elles rétabliraient la vérité de l'histoire.
Et en fait, on a trouvé, peut-être pas tous, je ne sais pas, mais en tout cas au moins deux bidons avec des documents.
Alors, on n'a pas trouvé deux bidons, on a trouvé plus de bidons que cela, on a trouvé en fait les deux tiers, en fait.
Les deux tiers
de ce qu'ils ont écrit. Voilà. Mmh. En fait, on a trouvé une première partie en 1946, grâce à une des personnes qui faisait partie du groupe, Oneg Shabbat, qui s'appelle Rachel Auerbach, qui faisait partie du groupe, et qui s'est battue, elle aussi, comme une acharnée après la guerre, pour dire, on ne peut pas reconstruire Varsovie, on ne peut pas reconstruire Varsovie aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas retrouvé notre histoire qui est sous la terre. Et elle s'est battue pour arrêter les travaux, pour arrêter les caterpillars, etc., etc. Et donc, une première partie a été trouvée en 1946. Ensuite, une benne mécanique a heurté une boîte métallique. On a retrouvé une seconde partie en 1950. Par contre, on est certain qu'il y avait une troisième partie, puisqu'en fait, il n'y a absolument rien sur la révolte armée.
Hein, oui.
Voilà, d'avril 43. Hein, on célèbre en ce moment le 74e anniversaire, d'ailleurs, de cette révolte armée, de cette résistance juive.
Tu l'as écrit dans ta BD, voilà, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, on sait que comme il n'y a aucun texte dans ces archives qui concerne cette période-là, c'est impensable qu'il n'ait pas écrit dessus.
Mmh. Oui. Alors, bien sûr, Ringelblum était très recherché par les nazis. Il était obligé de se cacher, etc., etc. Finalement, les nazis l'ont retrouvé.
Ben oui, et c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, il est mort 6 mois avant la fin de la guerre.
Mmh.
Voilà, ils ont été dénoncés. Ils étaient dans un bunker avec plusieurs familles, et effectivement, les nazis en zone aryenne, comme on dit, donc ils étaient cachés donc par une maison, par des Polonais qui ont été aussi assassinés, puisque tout Polonais qui cassait des Juifs était tout de suite assassiné sur place.
Bien sûr.
Donc voilà, et effectivement, alors ce qui est terrible, terrible, c'est que lui, toutes les personnes qui étaient dans le bunker ont été assassinées, bien évidemment, dans la prison Paviak, mais lui, les nazis savaient très bien ce qu'ils faisaient, la perversion était totale, ils l'ont sorti, lui, sa femme et son fils, de la prison, ils les ont mis tous les trois sur les ruines, puisqu'ils venaient de, ils avaient détruit, on le sait, on voit ces images de ghetto avec les en flammes, hein, je veux dire, détruit immeuble par immeuble, hein, par les nains, et ils l'ont tué donc sur l'herbine, en fait, hein, et donc c'est terrible. Il n'aurait pas vu, effectivement, la fin de la guerre.
En tout cas, son travail est resté, puisque je crois qu'il fait partie de l'UNESCO maintenant.
Tout à fait, ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, et aussi ça fait partie de certaines pièces de qui ont été retrouvées ont servi au procès de Nuremberg. C'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, pour témoigner des crimes, que ce soit de Stroop ou de Frank, etc., des pièces qui ont été retrouvées dans les archives de Ringelblum, archives Ringelblum, comme on les appelle, effectivement, ont servi au procès de Nuremberg, par exemple.
Alors, tu m'as dit que tu t'es beaucoup inspiré de ces chroniques-là pour écrire cette BD, mais tu as fait un choix. Tu m'as dit que de ne pas t'être senti de réécrire l'industrialisation de la mort par l'image. Tu t'es pas senti le droit de le faire parce que toi, tu n'as pas assisté à ces choses-là comme, par exemple, David Oller qui était Sonderkommando et qui, lui, l'a écrit. Mais lui, il en avait la possibilité puisqu'il a vécu. Tu as choisi plutôt de décrire la vie dans le ghetto, c'est ça? Et pourquoi? Explique-nous ça, parce que c'est une image forte.
En fait, effectivement, la question que tu poses, c'est la question de la responsabilité du témoin et la responsabilité du témoignage que l'on fait. Il me paraît impossible, alors après quel objectif on a de vouloir transmettre, hein, de dessiner nos frères juifs en train d'être assassinés dans les chambres à gaz. Il me paraît impossible de dessiner ce qu'ils ont vécu dans les camps. C'est très blinker, ensuite. Ça me paraît juste impossible parce que je serai toujours en deçà de l'horreur. Toujours en deçà du cauchemar. Donc effectivement, j'ai refusé, moi je me suis refusé à dessiner, à transcrire cela. C'est juste impossible. Par contre, bien évidemment, les personnes dont je parle, qui sont au centre de mon histoire, en parlent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux, les personnes qui sont au centre, c'est eux qui nous font participer à ce qui se passe autour d'eux. Ils parlent de Treblinka, ils parlent de la question de savoir... puisque beaucoup ne voulaient pas y croire, hein. Ça c'est encore une autre question. Bon. Donc voilà, donc moi je suis plutôt parti des êtres humains qui vivent dans le ghetto, et c'est eux qui nous racontent ce qui se passe autour, voilà, parce que je ne peux pas. Et David Oller, oui, était un peintre, était un grand peintre, un dessinateur hors pair, et lui était Sonderkommando, et pour moi, lui il a le droit. Lui, il a le droit de dessiner ce qu'il a dessiné. Hein. David Oller, hein, si les auditeurs veulent regarder un petit peu ses peintures, aujourd'hui Internet le permet. Son fils a réédité un livre. Hein, effectivement, David Oller, il a le droit, lui. Oui.
Alors, tu défends une idée extrêmement importante. C'est ils se sont battus comme des acharnés et n'ont pas se laissé aller comme des moutons. Ça, c'est une idée que tu défends beaucoup.
Ça a été quand même le début de ce projet, c'est-à-dire qu'en fait, on nous a toujours ou très souvent présenté les Juifs comme ne sachant pas se battre, les Juifs comme cette phrase terrible, hein, ne nous laissons pas abattre, aller à l'abattoir comme les moutons, hein, une phrase d'Ariel Vilney. Et en fait, quand on lit, par exemple, je cite le livre, hein, de Bernard Suchecki, Résistance juive à l'anéantissement. Résistance juive à l'anéantissement. Quand on lit ce livre, on s'aperçoit que oui, ils se sont battus d'une façon incroyable. D'ailleurs, je cite sur Academ, il y a une très très belle intervention exposée de Georges Van Soussan sur sur le ghetto de Varsovie, sur la résistance juive. Si les auditeurs connaissent le site d'Academ, je les invite vraiment à aller. Donc Georges Van Soussan, Varsovie, il explique très 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 bien effectivement la résistance et ce qu'elle était, quoi.
Et quand on parle de la révolte, alors là, vraiment, on peut pas nier, parce que ils étaient très peu armés, ils étaient très peu nombreux, devant des nazis qui étaient super armés, très nombreux et qui ont résisté au point de dérouter un petit peu les nazis pendant un certain temps.
Mais ils ont, c'est terrible. Ils ont d'abord, ils ont résisté plus longtemps que l'armée française. Les résistants de ghetto, c'est la première résistance civile des citoyens. C'est la première résistance civile contre les nazis. C'est la première. Après, il y en a une autre. Et effectivement, ils ont résisté près de 40 jours et ils ont fait reculer les nazis qui rentraient dans le ghetto, effectivement, pour entraîner les ont fait reculer. Les nazis ont été obligés d'aller chercher des moyens, des chars, etc., etc., de la Wehrmacht, etc. Et ils ont été d'une, ils étaient très très jeunes. Anielewicz, des chefs de ghetto, qui était très jeune, qui s'est suicidé au dernier moment parce qu'il ne voulait pas être pris, il était encerclé. Hein. Ils étaient moyenne d'âge 25 ans, 30 ans.
Oui, des jeunes, oui,
très
oui,
jeunes, très très jeunes.
Alors tes personnages, les personnages de la BD sont des personnages qui ne sont pas du tout fictifs. Tu es allé chercher des informations sur leur existence, etc. Et comment tu les as dessinés?
Ben d'abord au niveau de la fiction, pas la fiction, j'aime à dire que rien de ce que j'ai dessiné ou écrit n'est inventé, puisqu'effectivement si j'ai transposé certains noms de personnes, chaque situation que je raconte, hein, qui chaque séquence, hein, ben peut-être on va parler de c'est quoi une séquence.
Oui, tu nous diras ce que c'est une séquence.
C'est un thème comme ça qu'on aborde. Effectivement, je les ai lus et je me suis dit par exemple ce garçon résistant qui va sauver une vie, ce Jonas.
Oui, Jonas.
Jonas. Jonas. Alors les Polonais diraient, enfin, Jonas LR. Bon, Jonas qui va sauver une vie, qui va devenir résistant, qui est un petit coursier du ghetto. Eh ben, il a existé. Il y en a eu des dizaines d'enfants qui ont traversé le mur, qui ont été chercher des armes, qui ont apporté de la nourriture. Donc c'est vrai que j'aime à dire que j'ai rien inventé parce que la réalité a fourni des exemples magnifiques de gens qui ont lutté, quoi.
Mmh. Ouais. Et comment tu as dessiné ces personnages, les visages, à partir de photos, tu m'as dit. Tu es allé chercher des photos que tu as transcrites.
J'ai beaucoup dessiné à partir des photos et j'ai énormément dessiné, dans ma bande dessinée, des visages des juifs du ghetto Varsovie et les dessiner. Quand je dessinais une foule, ben quasiment chaque visage de personne que j'ai dessiné existe vraiment, et c'était pour moi une façon de même celui qui est tout au fond derrière l'image, effectivement, ben je lui ai donné un visage et c'était important pour moi. Alors je dirais pas à 100%, je dirais que les visages sont des êtres qui ont existé, mais la plupart, et c'était important pour moi, effectivement. Alors ça, on n'est pas obligé de le savoir, hein, pour lire la bande dessinée, mais c'était important pour moi puisque c'était ça le but aussi, hein, c'est de transmettre la vie qu'on leur a volée, en fait.
Bien sûr, parce que pour toi, ils sont vivants, ces personnages-là.
C'était une façon pour moi, d'ailleurs, le dessin, la mise en couleur, c'était aussi de les mettre en couleur, c'était de leur donner
voilà.
Vie, oui.
Comment, justement, on en arrive à une autre question. Après le visage, il y a une posture, il y a une situation, il y a des gestes, il y a de la couleur. Comment tu explique-nous ton travail là pour fixer toutes ces choses?
Ben, en général, ça c'est un processus du dessin, c'est-à-dire qu'on lit une phrase, on lit un passage qui nous paraît vraiment très très important, et en fait, eh ben ça c'est une maladie qu'on a, c'est de dessiner, de faire des croquis comme ça. On est là pendant qu'on lit, on dessine. Et au départ, ce sont que des traits, c'est juste posé comme ça, ce sont des choses jetées rapidement, et puis petit à petit, en fait, ce dessin, ce croquis, ce trait, cette expression, cette attitude, cette main tendue ou cette chose qu'on prend, ben petit à petit on l'enrichit, on affine un petit peu le visage, on affine la main, etc. On affine et puis on change tout des fois. Mmh. Tout d'un coup il y a une image qui nous plaît pas, on est obligé de toute la refaire. Mmh. Mais ça fait partie du processus de dessin, c'est que le point de départ n'est jamais le point d'arrivée, en fait. Il y a tout un travail comme ça. Mais je dirais que sur chaque image, après il y a le travail de mise en page, puisqu'une page de bande dessinée, il y a plein d'images. Voilà, c'est.
Et est-ce qu'il t'arrive qu'un dessin t'amène à modifier un petit peu le texte.
Mais c'est en permanence, je pense. C'est en permanence. C'est un aller-retour permanent et jusqu'au dernier moment, chaque mot, en fait, est pensé parce que celui-là ne correspond pas ou, effectivement, il y a une partie, effectivement, lorsque Ringelblum parle à sa femme, il y a une partie que j'avais écrite où en fait, il dit qu'il a fait un rêve. Il dit à sa femme pourquoi il doit rester à Varsovie. Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé. Oui. Il dit, nous étions sur l'arc de Tibériade, etc. J'ai dans une toile de Judée, il y avait un enfant qui criait. Enfin bon. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui est venu presque 3 semaines avant la fin de l'ouvrage. En fait, je me suis dit, bah oui, en fait, non. C'est parce qu'en fait, donc oui, il y a des choses, effectivement, qui ont été modifiées jusqu'au dernier moment. Mais c'est partie des choses qu'on maîtrise pas entièrement, mais j'espère que ça fonctionne, quoi.
Il y a aussi une idée qu'on retrouve dans tes dessins, c'est le monde. Le monde, tu dessines des planches avec beaucoup de monde, et ça, bien sûr, c'est en référence au ghetto de Varsovie. Hein. On rappelle qu'il y avait 400 000 personnes dans un espace de 2% de Varsovie, donc il y avait une foule énorme. Et ça, tu l'as dessiné beaucoup. Hein.
D'abord, je ne voulais pas que cette bande dessinée soit la bande dessinée avec un héros. Hein. Je ne voulais pas qu'il y ait un seul héros. Et en fait, lorsqu'on regarde des photos, des images, etc., on ne peut pas ne pas voir tout ce monde. C'est quelque chose d'important, d'impressionnant. Et donc, eh ben, je ne pouvais pas dessiner une histoire ou retranscrire l'histoire du ghetto de Varsovie sans tenir compte de tous ces êtres-là. Ils étaient très, très nombreux, effectivement. Ils ont été parqués comme ça de façon terrible. Ils vivaient à 8, 9 par chambre. Oui. Et donc, dans la rue, ils étaient beaucoup dans la rue parce que les maisons étaient surpeuplées. Donc, effectivement, lorsqu'on voit les images du ghetto de Varsovie et des autres ghettos, il y a une densité terrible. Et donc, fallait que, si je voulais être proche de la réalité, que ma bande dessinée en rende compte aussi, quoi.
Alors, on avait prévu de mettre une deuxième pause musicale. Je sais que tu y tiens parce que c'est magnifique, hein. C'est Isaac Perlman dans La Liste de Schindler. On va l'écouter un petit peu parce que l'heure avance et on a encore des choses à dire. Beaucoup de temps, mais dis-nous pourquoi tu as choisi ce morceau.
J'espère que chacun aura ressenti des choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai écouté énormément de musique pendant que je travaillais sur cette bande dessinée. Beaucoup de musique yiddish qui n'est pas ma culture, parce que c'était important pour moi aussi de musique joyeuse aussi, parce qu'il y avait beaucoup de joie dans la musique yiddish, il y a de la tristesse, il y a de la joie.
Bien sûr.
Donc j'ai beaucoup écouté de musique, et celle-ci, elle me pénètre jusqu'au fond des os.
Alors revenons à ta BD, puis il nous reste plus beaucoup de temps. ta BD est constituée de 9 chapitres, 9 chapitres que je vais énoncer. Yantel, La Demande, Jonas, Shaya, Les Enfants, Rue Gézia, L'Est, Qui sauve une vie et La Révolte. 9 chapitres que j'ai lus avec un grand, grand plaisir. Voilà. Alors, juste, est-ce qu'on peut, mais vraiment en 2 minutes, prendre un exemple, par exemple celui de Yantel, dire un petit peu ce qu'on va trouver dans ce chapitre, mais vraiment très court.
Alors, Yantel, c'est une vieille dame qui a été rescapé donc du ghetto de Varsovie et qui revient en Pologne 74 ans après pour rencontrer des enfants. Voilà, ça débute, Yentel, voilà, ça débute par ça, c'est ce retour à Varsovie de cette dame qui est très âgée, qui va rencontrer des enfants dans un collège polonais pour transmettre cette histoire, bien évidemment. Et donc, pour moi, voilà, Yentel, c'est une rescapée, elle est vivante, donc ça, c'est magnifique, et elle est, pour moi, ce qui est important, c'est, elle est l'âme de la transmission.
Elle est l'âme de la transmission. J'ai cherché une phrase qu'elle avait dite, mais je n'arrive pas à la retrouver. Dommage. Tant pis. Voilà. Dans chaque chapitre, tu racontes des choses. Je vous conseille vivement d'aller lire cette BD. C'est magnifique. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette BD ?
Alors, dans les librairies, elle est assez souvent. Alors, je conseille effectivement, moi, je trouve que c'est bien de défendre les libraires. Avec le monde d'Internet, qui est un monde magnifique, certes, les libraires disparaissent, hélas. Donc, je pense que c'est très bien d'aller, si on ne la trouve pas, et que le libraire est en bas de chez soi, de la commander. Sinon, sur Marseille, elle est à Maupetit, elle est aussi à la FNAC, elle est dans plein d'autres librairies. Sinon, si on veut la commander, sur Internet, moi, j'aime à dire que sur le Mémorial de la Shoah, il y a une librairie. La librairie du Mémorial de la Shoah, eh ben c'est un site internet, comme tous les autres sites, et ils envoient les livres. Et je serais très heureux que, si on doit la commander sur internet, bon, bien sûr, sur Amazon, la FNAC, etc. Mais voilà, je serais très, très heureux qu'elle soit commandée à la librairie du Mémorial de la Shoah, qui a été un lieu ressource pour moi magnifique.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors donc, voilà, le projet est terminé maintenant. Tu as d'autres projets ?
Oui, cette année là je pars retravailler sur une bande dessinée, je vais travailler donc sur la mise en forme de projets d'écriture en fait. Pendant 4 ans effectivement, j'ai laissé reposer des projets d'écriture, que ce soit des contes pour enfants, des documentaires pour la télévision, même des projets de fiction. Donc là, je suis en train de mettre au propre en fait tous ces projets d'écriture, pas pour réaliser les films forcément, mais pour pouvoir les transmettre à des producteurs, à des éditeurs. C'est un petit peu la remise à plat un petit peu de ces projets-là pour pas qu'ils restent dans les cartons, quoi.
Alors rappelons le titre de ta bande dessinée, Varsovie, Varsovie, ils vont sauver les archives de l'oubli. Donc Didier Zuli, c'est toi. Je te remercie d'avoir été présent ce soir et tu nous as appris beaucoup de choses sur ce métier et sur l'âme qui t'a guidé à faire cette BD. Je t'en remercie beaucoup.
Merci infiniment, Roland. Merci à toi. Merci beaucoup.
Et à bientôt, chers auditeurs. Bonne soirée.
Au revoir.